enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On va lever les mains vers le Seigneur. Éternel Dieu des cieux, je me remets en tes saintes mains pour la suite et pour le temps de la parole. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi l'onction, donne-moi la force de parler selon toi. Je m'efface devant toi. Et je prie aussi pour mon frère et ma soeur qui est là. Oh Dieu, je t'en supplie, dispose nos cœurs. Est-ce qu'on peut prier ensemble, frère? Prions ensemble pour le sang de la parole. Invoquons la présence de Dieu. Invoquons la puissance de Dieu. Que tout esprit des ténèbres, que tout esprit de sorcellerie, que tout esprit de lourdeur, que toute attaque de l'enfer soit consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sers-toi de moi, que je m'efface, que je disparaisse et que toi tu parles par moi. Oh Dieu, remplis-moi de toi, afin que je m'exprime selon toi. Ouvre ma bouche, mets ta parole dans ma bouche, dispose le cœur de tes serviteurs et tes servantes, afin de recevoir cette parole. Bénis ton église dans le nom de Jésus. J'ai soif de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu très haut, remplis-moi de toi. Je vais parler selon toi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va parler encore, dans la suite de notre message, sur la porte de Lévi. Dis à ton voisin la porte de Lévi. La porte de Lévi dit ceci: ta corbeille et ta huche seront bénies. Nous avons commencé cela, nous avons commencé à parler de cet enseignement depuis donc un mois. C'est l'enseignement qui dit que, qui te parle de comment Dieu te fait sortir du manque financier, matériel. Alléluia. Oh, je ne veux pas dire d'abord financier, mais surtout comment Dieu te fait sortir du manque matériel. Ça veut dire sur le plan nourriture, ce dont tu as besoin pour vivre. Dieu veut garantir ta vie de tous les jours afin que tu ne sois pas endetté, afin que tu ne manques de rien dans tout ce que tu entreprends, dans ce que dans ta vie de tous les jours. Et c'est une bénédiction. C'est la troisième porte de bénédiction. C'est la troisième grande bénédiction que Dieu accorde à son peuple. Bénédiction que nous sommes en train d'ouvrir maintenant sur la base de la parole de Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses depuis le début de ce mois en ce qui concerne ces enseignements. Je vous conseille vraiment dans le nom de Jésus de prendre les CD, de vous en procurer, de les écouter attentivement afin de mettre en pratique tout ce que Dieu vous dit là-dessus, afin de déclencher dans votre vie la bénédiction, la troisième bénédiction de Deutéronome chapitre 28. Il y en a en tout 12 qui vont nous conduire tout le long de cette année. Alléluia. Nous avons expliqué tout en commencement, je citerai juste que il y a 8 mentalités, 8 façons de penser qui vous maintiennent dans la disette. Même si actuellement vous connaissez un embelli financier, il peut ne pas être long. Il peut ne pas être long parce qu'il y a en vous un type de mentalité qui vous bloque et qui vous empêche de prospérer, qui vous empêche de recevoir la bénédiction, la troisième bénédiction qui est appelée la bénédiction de Lévi. J'ai cité 8 mentalités, donc l'esprit de sensu, la paresse, le refus de la correction, le manque de vision, la méchanceté, les paroles en l'air, la précipitation et la convoitise. Écoutez les CD, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de citer. Amen. Et puis, donc, après avoir cité ces 8 attitudes, cette mentalité-là qui met les personnes en retard, les hommes en retard, nous avons cité maintenant les trois éléments, j'en ai cité que deux, nous allons aborder maintenant le troisième, les trois éléments qui amènent cette bénédiction dans votre vie. La bénédiction, c'est une parole que Dieu prononce. Bénir, ça veut dire de bonnes paroles, dire de bonnes choses. Donc, Dieu te bénit. Et quand Dieu prononce cette parole dans ta vie, alléluia, Dieu prononce la parole de la troisième porte dans ta vie, alors tu sors du manque. Quelles sont les attitudes qui déclenchent l'ouverture de cette porte-là? Amen. Et nous avons cité, premièrement, la justice. En nous basant sur ce passage qui dit: je suis né, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et là, nous avons parlé donc de la justice. Et nous avons expliqué que la justice dont il est question, ce n'est pas la justice à laquelle nous pensons très souvent, c'est-à-dire ce que la Bible appelle la justice qui vient de la loi. Car Dieu, dans sa parole, définit deux justices: la justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. C'est celle-là qui vient de la foi qui vous permet de sortir du manque et qui fera que Dieu va vous déclarer juste. Alléluia. Et lorsqu'il vous déclare juste, vous-même, vous ne manquerez de rien et votre postérité ne manquera de rien à cause de cette parole que Dieu va prononcer sur votre vie, du fait de la manifestation de la justice qui vient de la foi. C'est ce dont nous avons parlé le dimanche dernier. J'ai aussi parlé dimanche dernier du souvenir du pauvre, de donner aux pauvres. Alléluia. Aux vrais pauvres, pas aux personnes qui ne veulent pas travailler. Amen. Pas aux personnes qui ne veulent pas travailler. Nous avons aussi longuement parlé de ces choses-là. Je me suis beaucoup appuyé aussi sur le passage de Matthieu chapitre 25, où Jésus disait qu'il avait été délaissé, abandonné par ses enfants, n'est-ce pas? Quand il était en prison, quand il n'avait pas à manger, quand il était nu, quand il était dans la faiblesse, les chrétiens, les gens n'ont pas manifesté les choses. Et Christ a dit, vous là, allez en enfer, parce que j'étais dans le besoin et vous ne m'avez pas aidé. Et nous avons lu beaucoup de versets qui disent que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel et Dieu va le lui rendre. Nous avons lu que celui qui donne aux pauvres, qui donne à celui qui a faim, garantit sa vie et la vie de sa famille de la disette. Alléluia. Et là maintenant, nous abordons donc le troisième point. Je veux parler donc de la gestion des talents que Dieu vous a accordés, des choses que Dieu a déposées en vous. Je parlerai de cela. Et là, je vais toucher le point véritablement sur les quatre sources de bénédiction, les quatre sources de pouvoirment, les quatre sources par lesquelles Dieu pourvoit à vos besoins. Dimanche dernier, j'ai fait un brin là-dessus. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train d'aborder maintenant. Ouvrons nos Bibles dans un premier temps dans le psaume 112, le verset 5. Le Seigneur dit là, dans la version de Semeur, il est dit, « Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité. » Car rien ne pourra jamais l'ébranler et on se souviendra pour toujours du juste. Amen. La Bible dit, il est bien que l'homme gère ses biens avec équité. Il y a une certaine gestion que Dieu attend de vous dans les biens qu'il met à votre disposition. Et c'est ce dont je vais parler. Cette gestion des biens-là, cette gestion des talents que Dieu vous a donné, va vous permettre de manifester ce que j'appelais quatre fleuves dans votre vie. Dis avec moi, quatre fleuves. Quatre fleuves. Qui sont des sources par lesquelles Dieu va vous bénir. Alléluia. Vous avez en vous des capacités que Dieu vous a données. J'ai beaucoup enseigné là-dessus. Je reviendrai constamment là-dessus jusqu'à ce que vous manifestez la grâce qui est déposée en vous. Trop de gens sont au cimetière et sont morts avec les trésors dans leur cœur. Il y a des grands ingénieurs, des intellectuels puissants qui sont morts sans manifester ce que Dieu avait déposé en eux. Dieu n'a jamais créé un être inutile. Si nous pouvons dire, Seigneur, je te loue de ce que c'est une créature si merveilleuse, c'est que nous sommes vraiment merveilleux. Mais le diable va te faire croire que tu n'es pas merveilleux, qu'on n'a pas besoin de toi. Ces enseignements doivent te permettre de manifester ce à quoi tu étais appelé. Car ton vrai bonheur, ta vraie joie, sont fonction de ce que Dieu attend de toi, ce pourquoi tu es né. Je vous ai donné juste cet exemple. Je dis, même l'homme ne crée rien pour rien. Alléluia. Ces fauteuils-là ont été fabriqués par les hommes. Mais pourquoi on a fabriqué des fauteuils? Pourquoi on fabrique des fauteuils? C'est pour qu'on puisse s'asseoir. Pourquoi les hommes ont fabriqué les micros? Pour amplifier la voix. Donc, tout ce qu'on crée a un but. La Bible déclare que Dieu a tout créé pour un but. Si l'homme même, dans sa limitation, crée toutes choses pour un but, on est créé pour être inutile. Mais comme tu crées, même tu peux créer des chemins pour distraire. C'est un but. Alléluia. Donc, si Dieu l'homme a tout créé pour un but, à plus forte raison Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit inutile. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie n'ait pas de but. Ta vie a un but. Tu es né pour quelque chose. Ta vie a un sens. Alléluia. Même si tu es né dans des situations difficiles, même si aujourd'hui tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, je te dis que les problèmes, les difficultés que tu es en train de vivre viennent justement pour t'amener à manifester ton potentiel. Malheureusement, beaucoup de gens, face aux difficultés de la vie, démissionnent. Alléluia. Mais je ne veux pas que tu démissionnes, mon frère. Ta vision peut-être n'est pas parfaite, mais tu vas réussir. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Ah. Toi-même, tu crois. Il y en a qui ne croient même pas. Moi aussi, tu crois, dis amen. Ma soeur, est-ce que toi, tu crois que le monde a besoin de toi? Tu vois? Peut-être que tu regardes, toi, tu ne crois pas que le monde a besoin de toi. Non, non, vous savez, il y a des choses qu'on dit et puis on est excité, on dit oui, amen, amen. Mais regarde-toi, toi-même commence à te regarder. Je dis que le monde a besoin de toi. Dis, commence à penser en toi-même. Tu dis, moi qui suis là, là. Le monde a besoin de moi. Hein. Ma famille ou bien le monde? Personne ne me dit quoi. J'ai dit le monde, frère.
Ah.
Le monde a besoin de toi. Ce que Dieu a mis en toi. Tu es la solution de Dieu pour bien de problèmes. Là où tu es, ta naissance, ta famille, tout le contexte dans lequel tu es né, que tu n'as pas choisi, sont les conditions idéales pour toi, pour atteindre ta destinée. Ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est que la destinée, ce que j'appelle le fleuve de ta vie, est celui-là par lequel Dieu pourvoit tes besoins. Ces sources-là d'eau vive, tu vas pourvoir. Et il y en a quatre que Dieu doit manifester avec toi. Quatre. Pas une seule. Tu ne seras pas béni simplement parce que tu vas trouver un bon boulot et on va bien te payer. Ou bien tu vas gérer une entreprise, tu vas avoir de gros marchés. Tu vois? Et puis, avec tes marchés, tu aides ta famille. Donc là, on sent que tu deviens une source de bénédiction. C'est ça, non? Si tu crées une entreprise, que l'entreprise est bénie. Amen. Et tu viens, tu fais de grosses offrandes à l'église. En tout cas, tu aides ta famille. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Si c'est une entreprise, il y a encore trois autres choses que tu vas ouvrir. Le talent que Dieu a déposé en toi crée quatre sources. Tant que tu n'as pas atteint tes quatre objectifs dans la vie, tes quatre sources, tes quatre fleuves, tu n'es pas encore arrivé. Dis avec moi quatre. Quatre. Qui a déjà fait un? Qu'est-ce que ceux qui ont déjà un? Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 7, le verset 38. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 7, verset 38. Il est dit, voilà ce que le Seigneur dit, pour que vous sentez que je ne suis pas en train d'inventer. Il dit dans ce passage, celui qui croit en moi, d'un fleuve, dis avec moi d'un fleuve, d'un fleuve, d'un fleuve. Il dit, je reprends moi-même maintenant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Dieu dit que si quelqu'un croit en lui, des fleuves vont couler de son être intérieur. Des, pas un fleuve, des fleuves. Amen. Un fleuve, c'est quoi? C'est quoi un fleuve? Un fleuve, c'est un cours d'eau. Amen. C'est un cours d'eau où l'eau s'écoule. Alléluia. Depuis une source et va se jeter dans la mer. Alléluia. Une rivière, c'est un peu comme un fleuve. Mais en fait, généralement, les rivières se jettent dans les fleuves. Ou bien dans d'autres étangs d'eau. Mais le fleuve, lui, va à la mer. Et quand le fleuve passe, partout où il passe, il apporte la vie. Il apporte la liberté. Il apporte la joie. Toi, de ta ville, Dieu fait sortir quatre fleuves. Toute personne qui s'approchera de toi sera bénie, connaîtra la vie. Tu vois, il y a quatre choses que Dieu va faire sortir de ta vie. Toi-même, tu seras arrosé. Tes parents seront arrosés. Ta famille sera arrosée. Et un fleuve a cette particularité, le fleuve n'est pas un marigot. Un marigot, pendant que je parlais des quatre fleuves, il y en a, ils n'ont pas encore créé leur fleuve. Ils pensent qu'ils ont fait leur fleuve. En fait, ils ont fait des marigots. Amen. Ils ont fait des marigots. Non, la plupart d'entre vous, je vous assure, beaucoup parmi nous, on a fait des marigots. Ce n'est pas encore fleuve. Non, ce n'est pas encore un fleuve. Si ça s'arrête tout près, ta bénédiction s'arrête à... Il y a trois frères seulement qui en profitent. Ça, c'est un marigot. Alléluia. Mais du marigot peut sortir le fleuve. De la petite entreprise que tu as commencé, qui te bénit, qui pourvoit ta famille, peut sortir un fleuve. Je veux que tu comprennes que la bénédiction de Dieu ne s'arrête jamais à une personne seule, ni à une famille. Quand Dieu arrose ta vie, quand Dieu va te bénir, ce qu'il fait, c'est pour l'humanité. Parce que c'est ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. C'est de cela que nous avons été bénis. La bénédiction d'Abraham dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour le monde entier. Dieu ne bénit pas une personne pour que ça s'arrête à elle-même. Sinon, c'est un marigot. Et un marigot, on peut le polluer. Mais un fleuve, même si tu as mis la pollution, ça s'en va. Et où tu as pollué le fleuve, quelques secondes après, l'eau est encore consommable. Parce qu'il coule. Toute bénédiction qui stagne, marigot, peut être très dangereux. Ta vie, il dit, si tu crois en moi, je ne ferai pas des sources d'eau. Je ne ferai pas des marigots, des puits. Je vais faire de toi une source de bénédiction. Beaucoup de gens n'y croient pas. Ils ne croient pas. Parce qu'ils ne croient pas, c'est ce qui les limite. Amen. C'est pour ça, dans nos églises, on a très peu de frères qui arrivent à être à la tête et non à la queue. Qui arrivent à être à la tête. Parce que la mentalité des gens les empêche de croire. L'authentique qui est en train de faire son aloco ne peut pas croire que sa société d'aloco peut devenir une multinationale. Elle croit que l'aloco qu'elle fait là, alléluia, va la nourrir, elle et sa famille. Amen. Même si Dieu leur a dit, servante de Dieu, lève-toi et fais de l'aloco. Elle ne peut même pas imaginer qu'un jour, elle doit faire, comment dirais-je, de la banane séchée, aloco truc qui va aller à l'étranger. Les gens m'ont dit, avec Tanti Marguerite, aloco de Tanti Marguerite, spécialité. Et puis, ça va aller dans le monde entier. Elle ne croit même pas en ça. Elle n'a pas de rêve. Elle ne croit pas en un fleuve. Elle croit en un marigot. Elle ne croit pas que ce que Dieu l'a béni, ce qui nourrit sa famille, devra demain nourrir d'autres familles. Elle ne croit pas que la bénédiction que Dieu lui a accordée, qui nourrit sa famille, le but de Dieu, ce n'est pas que ta famille puisse sortir de l'endettement. Ce n'est pas que ta famille seulement soit bénie. C'est de faire un fleuve. Fais une différence entre le fleuve et puis le marigot. Mais si je dis lac même, c'est bon. T'es avec moi le fleuve. Dieu veut faire un fleuve de ta vie. Il dit, mais Jésus a dit, pour que le fleuve naisse, vienne, il faut que tu puisses croire. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il faut croire en lui. Il faut croire. Il faut savoir que tu as une destinée. Il faut savoir que ta présence pour Dieu n'est pas égale à ton absence. C'est toi qui te minimises, mais Dieu ne te sous-estime pas. C'est toi qui te sous-estimes, mais Dieu ne te sous-estime pas. C'est la vision que tu as de la vie qui te sous-estime, qui te bloque toi-même, mais Dieu ne te sous-estime pas. Pourquoi je parle donc de quatre fleuves ? À cause de ce que Dieu lui-même a fait dans le livre de la Genèse. Ouvrons nos Bibles en Genèse chapitre 1. Pardon, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 9, il est dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y retrouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Amen. Pourquoi je crois donc qu'il y a quatre fleuves? Parce que je vous ai dit que les douze bénédictions, en fait, c'est entrer dans votre Canaan. C'est ça, non? Quand Dieu crée le paradis, en quelque sorte son Canaan, ou même le jardin d'Éden, Dieu, pour maintenir la vie dans le jardin d'Éden, crée quatre fleuves. Un fleuve aurait suffi pour qu'il y ait la vie. Il aurait pu faire un grand fleuve. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un grand fleuve. Il avait d'abord un fleuve qui se divise en quatre. Et chaque fleuve apporte une particularité dans la vie de chaque, dans la vie d'Éden. Et ça permettait à Adam et à Ève de vivre aisément. Quatre fleuves arrosaient le jardin et leur permettaient de vivre aisément. Donc, il y a quatre fleuves qui doivent te maintenir dans ton Éden. Dis amen avec moi. Amen avec moi. Alléluia. Et ces quatre fleuves-là, comme vous le voyez, ont un sens bien précis et une signification spirituelle précise. Chaque fois que Dieu parle dans la parole, il sait ce qu'il est en train de dire. Dieu n'est pas pour parler. S'il a donné le nom, c'est que c'est pourquoi il a donné le nom. Quand Dieu ne donne pas de nom, il sait pourquoi il ne donne pas de nom. Amen. Alléluia. Même quand le Seigneur vient, je crois pas que j'ai prêché là-dessus, peut-être une fois. Quand le Seigneur vient, il dit, il y avait un homme qui était riche et un pauvre qui était à sa maison qui s'appelait comment? Lazare, qui mangeait les miettes. Le nom qu'il a dit là, a un sens. C'est pas pourquoi on sache que le monsieur s'appelait Lazare. Quand vous écoutez l'enseignement sur quitter pour posséder, le nom d'Abraham, le nom du père d'Abraham, Dieu le donne. Tout ça, ça avait un sens. La Bible dit, Dieu dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, je crois verset 37, que Jésus a dit, les choses cachées depuis la fondation du monde, Christ les amène à ce qu'on les connaisse maintenant. Quand Dieu même créait la terre, chaque chose qu'il a créée avait un sens, avait un but, avait un objectif, avait un enseignement. Dans le livre de Romains, il est dit que la perfection de Dieu se voit comme à l'œil nu. Lorsqu'on le considère dans toute la création. Alléluia. Alléluia. Donc le premier fleuve s'appelait Pichon. Son nom signifie en hébreu augmentation. Il arrosait, il tournait tout autour d'une zone qui s'appelait Avila. Ça devait être sûrement des zones au niveau du jardin d'Éden. Et la région d'Avila était appelée le pays du trésor. Le pays de l'or, du trésor. Le deuxième fleuve s'appelait Guion, qui veut dire source jaillissante, ou bien qui éclate. Il entourait tout le pays de Cush. Il parle d'un territoire, donc, comme un territoire brûlé par le feu. Le troisième fleuve s'appelait Idekel. Son nom veut dire rapide. Le quatrième fleuve s'appelait l'Euphrate, qui veut dire la fertilité. Alléluia. Ces quatre choses ont un sens. Les pays qu'ils entourent aussi ont un sens par lesquels Dieu va vous parler en ce qui concerne la gestion des fonds et des biens qu'il m'a à votre disposition. Comment vous allez gérer les biens que Dieu va vous donner? Je veux d'abord que vous compreniez un tout premier principe que nous allons partager maintenant pour vous préparer à cela. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse encore, chapitre 1 cette fois-ci. Chapitre 1, verset 11 au verset 12. Je lis. Il a dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'air portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Dis avec moi la semence. Dans ce verset, le Seigneur dit que Dieu a créé la verdure. Il a créé les végétaux. Suivez très bien la sagesse de Dieu. Et quand Dieu a créé les végétaux, voilà ce qu'il dit. Il dit chaque herbe doit porter sa semence. Ça veut dire l'élément reproducteur de la plante. Il dit que chaque fruit qu'il va faire portait sa semence. Dis avec moi la semence. Alléluia. En fait, la semence dans un fruit, c'est le pépin ou bien le noyau. C'est le pépin ou le noyau. Et le noyau dans une mangue est très gênant. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu as envie de bien manger la mangue comme ça, puis le noyau, oh, la mangue est douce comme ça, la chair est bonne. Et puis il y a un noyau là qui vient prendre beaucoup de place. S'il n'y avait pas de noyau, on aurait mangé plus de chair. Mais s'il n'y avait pas de noyau, on n'aurait plus de mangue. Regardez ce que Dieu va faire. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu n'a plus jamais recréé les choses? Dieu a créé ça en 6 jours. Après, il n'est plus jamais revenu encore pour créer à nouveau. Alléluia. Non. Dieu vient, il dit que les mangues soient. Et puis il dit que la mangue porte son noyau. Et il insiste 2 fois. Il ordonne et quand ça a été fait, il valide. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Alléluia. Dieu valide. Il dit, il faut qu'il y ait le noyau. Il faut qu'il y ait le pépin. Vous avez remarqué que les noyaux et les pépins ne sont pas doux. Hein? Ce n'est pas fait pour être mangé. Même quelquefois, même quand la mangue, le fruit est doux, tu es en train de manger une orange. Tellement c'est doux. Si tu as fait l'erreur de croquer le pépin, là, ça gâte tout le fruit. Alléluia. Dieu ne crée pas 2 fois. Dieu va vous bénir. Je suis en train de vous parler parce que Dieu va vous bénir. Quand Dieu va vous bénir, il faut comprendre ce que je vais dire pour comprendre les 4 fleuves. Quand Dieu va vous bénir, comprenez que dans tout ce que Dieu vous donne, il doit avoir le noyau. Le noyau, c'est quoi? Ou bien le pépin? C'est un élément qui doit permettre de recréer le même miracle. Regardez bien. Dieu ne crée pas le manguier et puis il dit, manguier soit. Comme les gens ont fini de manger toutes les mangues, Dieu dit, vous êtes contents les enfants? Vous avez mangé? On dit oui. Il dit, bon, j'arrive encore. Créer encore un nouveau manguier. Manguier soit. Donc Dieu allait venir tout le temps parler pour créer les manguiers et les fruits. Non. Dieu a créé une seule fois. Et là-dedans, il a mis le pépin. Ça veut dire quoi? Toute bénédiction que Dieu vous apporte, financière, matérielle, doit avoir en elle-même sa capacité de reproduction. Est-ce que vous me suivez? Alléluia! Ça veut dire quoi? Si Dieu te donne 10 000 francs, dans les 10 000 francs là, il y a un pépin dedans. Il y a une partie qu'il ne faut pas manger. Cette partie-là doit te permettre de recréer un autre 10 000 francs. Si tu as pris et tu as tout mangé en disant, l'Éternel pourvoira. Tu vas devoir encore jeûner et prier pour que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, vienne te recréer un nouveau miracle. Mais Dieu ne veut pas ça.
Quand Dieu te donne 10 000, il y a un pépin. Quand Dieu te donne 1 million, il y a un pépin ou un noyau que tu ne dois pas manger. Quand tu le manges, alléluia. Par exemple, tu as jeûné et prié pour dire, Père, décante ma situation. Ah, dans le nom de Jésus-Christ, il me faut, Seigneur, j'ai besoin de 1 million. Là. Miracle de création. Dieu parle à un enfant. Lève-toi, va donner 1 million à mon fils. Tu te réveilles le matin, enveloppe 1 million. De gloire à Dieu, Dieu m'a visité. Et tu commences maintenant. Les parents arrivent. Tenez, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Frère! Et tu manges l'argent, tu manges le pépin. Tu vas voir que après, tu vas voir que. Les frères ont dû remarquer ça. Hein. C'est-à-dire, Dieu pourvoit à un moment donné. Et puis, quand l'argent est fini, ça ne se renouvelle plus. Malgré que tu aies fait ta dîme, j'ai expliqué tout à l'heure. Ah, j'ai parlé de la dîme. Parce que j'ai expliqué qu'en fait, j'ai vous parlé du pépin. Alléluia! J'ai vous parlé du pépin. Parce qu'en fait, il y a au moins deux pépins. Je vais vous expliquer pourquoi il y a deux pépins. Ouais. C'est-à-dire, quand tu manges tout, c'est vrai. Même Dieu même a fait de sorte que, exprès pour que le pépin soit amer, quand ton argent est en train de finir, les derniers billets, quand tu veux sortir, ça te fait mal, non? Parce que Dieu ne veut pas que tu dépenses. On t'a donné 100 000 francs, et puis tout en train. Mais quand tu arrives vers 20 000 francs, tu ne dois pas le manger. Vous savez, si Dieu faisait que les pépins étaient doux, les orangers auraient disparu, les manguiers auraient disparu. Parce que quand on allait manger, nous tous on allait manger les pépins. Mais Dieu a rendu les pépins amers. La semence, c'est qui va renouveler les fonds que Dieu te donne. Quand Dieu te bénit, il faut toujours savoir que dans ce qu'il t'a donné, il ne va pas être prêt à refaire directement le miracle la prochaine fois. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose que tu ne dois pas toucher. Tu ne dois pas tout prendre. Même si Dieu t'a donné 10 000 francs, il y a une partie là. Dis à ton voisin, le noyau. Trop de frères, vous savez, quelquefois nous sommes insensés. Dieu nous bénit, tu as eu 200 000 francs tout de suite. L'Éternel est vivant. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et tu finis tout l'argent. Mais même quand on mange la chair, Dieu a mis les os là-bas, on ne doit pas manger. Mais il y a des hommes qui sont dangereux. Ils finissent le poulet, ils mangent les os. Ah, mon frère! Laissez les arêtes et les os. Dieu a fait ce pour que même les arêtes des poissons soient piquants. Mais il y a des gars, même dans l'arête là, on s'est débrouillé. C'est-à-dire. En fait, je veux t'expliquer que quand Dieu vous bénit, il y a toujours un reste que Dieu dit, il faut laisser ça à la nature quand même. Faut laisser. Les os là, il faut laisser ça. Maintenant qu'ils mangent tout, ils finissent la chair, ils finissent. C'est-à-dire, quand tu regardes l'assiette, tu ne sais même pas s'il a mangé un poulet. Mais tout est fini dedans. Tout. La moelle, l'eau, la tout avalé. Les arêtes, il a fini avec tout ça. C'est pas bon, toi aussi. Heureusement que les pépins sont amers. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères, ce sont des principes très importants pour que vous compreniez comment Dieu agit. Quels sont les arguments que nous donnons très souvent? Nous disons très souvent que quand on veut garder, parce que ça parle de l'épargne, n'est-ce pas? Dans tout ce que Dieu donne, il faut que j'en ai toujours une partie que je conserve. Je vais vous expliquer comment ça se gère. Ça, je ne l'ai pas expliqué au premier que je l'expliquerai et eux, la prochaine fois, je leur dirai la suite. Amen. Dans tout ce que Dieu vous donne, il faut garder une partie qui n'est pas pour vous, qui est pour Dieu. Je vais vous expliquer, en fait, comme je dis, pourquoi il dit, il y a deux pépins. Il y a le premier qui est directement pour l'œuvre de Dieu. Il y a le second qui est pour vous, mais qui est consacré à Dieu. Suivez-moi très bien. Amen. Je vais vous montrer ça dans la Bible tout de suite. C'est pour vous, hein, mais vous ne devez pas manger quand même. Alléluia. 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 Dieu va créer des choses dans ta vie. Comprends les règles de fonctionnement de Dieu. Ce que j'appelle la semence pour Dieu, la première des choses que nous apportons à la maison de l'Éternel, que Dieu bénit, c'est au moins la dîme. C'est-à-dire, quand Dieu te donne 10 000 francs, tu fais la dîme, non? Tu fais la dîme, non? Je vais te montrer dans la Bible qu'il y a deux dîmes. Il y a une dîme qui vient dans la maison de Dieu.
y a, tu vois encore l'autre dîme que tu dois garder quelque part et que tu ne dois pas toucher. Si tu as eu 10 000 francs, il y a 2 000 francs que tu ne dois pas manger dedans. Et tu dois utiliser seulement que 8 000. Le premier 1 000 francs, c'est pour la maison de Dieu. Le deuxième 1 000 francs va te servir. Mais tu ne toucheras à ce 1 000 francs-là que dans 3 ans, au moins. Alléluia. Alléluia. Bon, dis, pasteur, faut nous expliquer. Au moins 3 ans, au moins. Au moins dans 3 ans. Alléluia. Alors, je disais qu'il y a beaucoup d'arguments que nous nous donnons. Nous disons très souvent que, ah, mais j'avais 100 000 francs, il y a mes frères qui ont des problèmes, je ne peux pas épargner. Pendant que ma famille est en train de mourir de faim, comment moi je peux avoir un compte à la banque? C'est un argument dangereux. Comprenez bien une chose, vous ne pouvez pas, beaucoup parmi nous viennent de familles souvent pauvres. Ils sont dans les difficultés. Les gens ne croient pas. Vous entendez ces paroles. C'est que Dieu est en train de faire avec vous. Dieu va vous faire sortir du trou. Pour que vous deveniez une source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, je vais te bénir, mais tu seras une source de bénédiction. Et qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Il dit à Abraham, quitte ta famille. Il y a un moment donné, ce n'est pas de la méchanceté. Mais vous allez quitter, vous allez devoir sacrifier quelquefois vos proches. Parce que vous ne pouvez pas être dans un trou. Avec des gens dans un trou. Le trou de la pauvreté, de la misère. Et puis sortir avec tout le monde à la fois. Vous ne pouvez pas les soulever et puis partir avec eux. Vous devez sortir et puis les aider. Vous devez sortir et puis jeter une corde. Pour dire, mes parents, venez, on va monter. Si Dieu vous a donné 100 000 francs. Et puis vous allez prendre les noms. Ma maman ne sait pas comment payer l'électricité. Et puis tu finis tous les 100 000 francs. Disant que Dieu va faire un miracle encore. Tu auras des sérieux problèmes. Et tu as mangé le noyau. Et Dieu, quand c'est comme ça, Dieu ne renouvelle pas constamment tes fonds. Et tu comprends pourquoi. Pendant que le peu d'argent que tu as eu, tu as partagé avec le pauvre. Mais le problème, c'est que tu as toujours mangé le noyau. Tu n'as pas donné à l'argent que tu t'as donné la capacité de se recréer. Or, chaque miracle qui amène un fond dans ta vie est une parole. Et Dieu n'a pas envie de parler encore deux fois. Dieu te donne une fois. Il veut que tu saches qu'il y a quelque chose qu'il faut garder, qu'il doit recréer d'autres fonds. Mais on se donne comme argument, on dit non, il faut que... Parce que je peux épargner comment? Mes frères souffrent. Mon petit frère ne va pas à l'école. Mais attends, même ce que tu as là, comment ça peut l'aider à s'en sortir? Ce que tu as. Tu as la foi pour toi sortir du trou. Je n'ai pas dit de ne pas aider tes parents. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit comment tu vas mieux les aider. Tu ne peux pas être dans un trou avec les gens. Et puis, dès que tu mets un pas, on dit ne nous oublie pas. Viens, prends à nous. Et puis tu les prends par la main. Tu les soulèves ici. Vous êtes là. Comment tu as monté, mon frère? Vous deux, vous tous, vous allez toujours dans le trou, en train de vous regarder. On fait quoi? Bon. Tu dis, bon, je vais tenter encore une sortie. On dit, oui, mais ne nous oublie pas, hein? Ne nous oublie pas. Tu dis, non, il n'y a pas de problème. Jésus est avec moi. Tu pries. Père, pouvoir. Donne-moi, je vais créer une entreprise. Un frère est touché. Pendant que tu passes à l'église, tu te donnes, tiens, 200 000 francs. Va investir. Tu commences à faire ton petit garbadrome, ta petite boutique. Directement, tu appelles au téléphone. Cri. Frère Yao, ça ne va pas. Ton grand frère est gravement malade. Si tu n'as pas, si tu n'es pas, tu n'interviens pas maintenant. Et frère, il est foutu. Tu avais 200 000 francs pour monter ta société. Et tu prends tout. Allez-y. Dieu pourvoira encore. Tu te crées des problèmes. Parce que le problème, c'est que vous avez dû remarquer que Dieu ne pourvoit pas directement après. Parce que tu as mangé le pépin. Il y a quelque chose que tu ne devais pas toucher. Les bons chrétiens, ils savent que quel que soit l'argent que Dieu leur donne, ils enlèvent toujours la dîme. C'est pas ça? En fait, vous ne savez pas qu'il y a deux dîmes qu'il faut enlever. Il n'y a pas seulement la dîme de l'église. De la même manière que vous êtes rigoureux pour toujours enlever la dîme, quel que soit le problème des gens. Parce qu'un bon chrétien sait que quel que soit le problème des gens, la dîme de Dieu, là, on n'y touche pas. C'est pas ça? De la même manière, il y a une autre dîme que tu dois compléter avec le même esprit parce que l'argent n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. En fait, il y a deux dixièmes que tu dois enlever. Alléluia! Et vous allez prendre papier, tu vas dire, hey, mes frères sont malades. C'est là que tu vas mettre la foi en Dieu. Si tu n'avais pas l'argent, tu allais faire comment? Si tu veux être ton frère dans les huit dixièmes qui vous restent, mais ne touche jamais aux 2 dixièmes que tu as mis à l'écart pour Dieu. Jamais. Amen. Alléluia. Et puis prends les autres là, et puis essaie de faire ce que tu peux. Si tu ne peux plus, mets-toi à genoux et puis prie. Dis Seigneur, fais quelque chose. Quand on croit qu'on est les oh, c'est-à-dire, on veut tellement aider les gens que nous-mêmes, allez, nous-mêmes, on se tue maintenant. Non. Mais Jésus lui-même, vous savez, Jésus guérissait les malades quelquefois. Mais Jésus passait du temps pour sa propre communion avec Dieu. Il y a toujours quelque chose qu'on consacre d'abord pour Dieu. Parce que si tu ne te consacres pas d'abord à Dieu, que tu passes ton temps à aider les gens, toi-même, spirituellement, tu meurs. Ça, tous les hommes de Dieu le savent. Si tu es toujours les gens en train de dire, je vais vous exhorter. Le soir, tu rentres à la maison, tu es tellement fatigué, tu n'arrives pas à prier. Tu te lèves encore en train d'aider les gens. Toi-même, spirituellement, un jour, tu vas te retrouver dans le péché. Il y a toujours quelque chose dans ton énergie que tu dois consacrer à Dieu. Et toi-même, pour ta propre vie, pour prier, afin de pouvoir toujours aider les gens. Dans toute vie, il y a une chose que nous consacrons à Dieu pour adorer le Seigneur, pour nous-mêmes, notre propre vie spirituelle. Dès l'instant où vous tuez votre source de communion avec Dieu, c'est ce que j'appelle la dîme de votre temps. Quand vous tuez la dîme de votre temps, que vous devez offrir dans la prière, parce que le temps aussi, c'est un trésor que Dieu vous donne. Vous le savez, non? Le temps, c'est un don. Oui, le temps, c'est une offrande. Le temps, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Le temps même, c'est la richesse que Dieu a donnée à tout le monde de manière équitable. Vous savez ça, non? Tout le monde a 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a 25 heures ici. Dans la journée, nous tous, on a 24 heures. Et ce sont ces 24 heures-là qu'on échange pour avoir les moyens. Tout dépend de comment tu gères tes 24 heures. Si tu gères tes 24 heures devant la télévision en train de bavarder, wow, 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 wow. 24 heures est passée. Dieu, 24 heures, Dieu a distribué ça de manière équitable à toute l'humanité. L'homme le plus riche au monde, il s'appelle Bill Gates. Je vous assure qu'il n'a pas 26 heures. Bill Gates a 24 heures, comme Pasteur Sanogo Yoko, comme toi. Nous tous, on a 24 heures. Mais comment il gère ses 24 heures? C'est là la différence. Alléluia! Il y a toujours quelque chose que nous devons garder pour Dieu. Amen. Donc, et dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 4, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Si vous-même, vous êtes profondément dans les difficultés, comment pouvez-vous conduire quelqu'un qui est lui-même dans les difficultés à vous? Toi-même cherche à voir d'abord, afin de pouvoir l'aider à voir. C'est le même principe. Il dit, avant d'aller vers la poudre dans l'œil de l'autre, ce n'est pas une manière de te culpabiliser. Guéris-toi toi-même d'abord. Tu sauras comment guérir les autres. Alléluia. Si tu passes ton temps à guérir les autres sans toi-même te guérir, tu te crées des problèmes. Alléluia. Il dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, tu peux aimer ton prochain comment? On dit, aime ton prochain comme toi-même. Toi-même, maintenant, tu ne t'aimes plus maintenant. Tu dis, j'aime les autres. Mais c'est que tu ne les aimes pas. Alléluia. Frère, je ne suis pas en train de prêcher l'égoïsme. Hein. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose pour vous. Ouvrons nos Bibles pour le montrer dans le livre de Lévitique, chapitre 27, verset 30. Pour comprendre les principes de gestion divine, il faut quelquefois rentrer dans l'Ancien Testament pour comprendre un peu comment Dieu avait demandé cela. La dîme dans la parole de Dieu est une des seules lois où la non-obéissance n'a pas de conséquences. C'est-à-dire toutes les lois que Moïse a données avaient un péché direct. C'est-à-dire qu'avaient une conséquence directe, pardon. On dit, si tu tues, on doit te tuer, n'est-ce pas? Mais Dieu, quand Dieu donne la loi de la dîme, il ne dit pas de conséquences. Donc, la dîme là, si vous voulez, ne priez pas. C'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. Mais, moi je vous exhorte à donner votre dîme à Dieu. À donner la dîme à Dieu. N'écoutez pas les gens qui bavardent beaucoup dans la ville. Prêchant comme si la dîme était une loi. Ce n'est pas une loi. C'est un conseil, c'est une exhortation divine. Tu n'es pas obligé de respecter. Mais pour ton propre bien, respecte-la. Tu seras béni. Amen. C'est une recommandation de Dieu, ce n'est pas une loi. La dîme n'est pas une loi. Donc il ne faut pas juger la dîme par rapport aux autres principes de la loi. Parce que la dîme n'est pas une loi. Amen. La dîme faisait partie des conseils de gestion. Il y a beaucoup de trucs concernant la parole de Dieu. Par exemple, même la gestion de la terre. Dieu dit que si tu es cultivateur, chaque 7 ans, laisse ta terre se reposer. Ce sont des principes, ça fait partie des lois. Mais est-ce que c'est pas, quelqu'un n'a pas fait ça, on va venir le tuer pour autant? La dîme fait partie de ces mêmes principes. Parce que le peuple était régi par Dieu. Donc il y a des conseils que Dieu donnait en ce qui concerne la gestion de la vie de tous les jours. Ce n'étaient pas des conseils de condamnation, de loi pour dire non. Et il y a la dîme et puis il y a d'autres principes comme ça que Dieu donnait
en ce qui concerne, par exemple, chaque 7 ans, tu devais laisser reposer ta terre, ainsi de suite. Ces méthodes-là, quand vous les appliquez, votre terre produit encore davantage. Amen. Alléluia. Alors, en Lévitique, chapitre 27, verset 30, il est dit, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. » Amen. Nous lisons maintenant donc Lévitique 27, 30 dit que toute dîme, notez bien, toute dîme est consacrée à l'Éternel. Tout ce qui s'appelle dîme est pour Dieu. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 18, verset 21. Il dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Regardez le verset. Il dit que toute dîme est pour ceux qui sont consacrés à l'Éternel, ça veut dire les Lévites. Le premier passage qu'on a lu, Lévitique, chapitre 27, verset 30, dit que la dîme, il n'a pas défini à qui elle devait donner, mais il dit que la dîme est quelque chose qui est consacré à Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, en Nombre, chapitre 18, verset 21, il dit que elle est pour la maison de l'Éternel, elle est pour le Lévite. Passage qui est confirmé en Malachie, chapitre 3, verset 8 à 11, où Dieu dit, amenez à la maison du trésor toutes les dîmes, n'est-ce pas, et les offrandes. Donc, amenez à la maison de Dieu toutes les dîmes et les offrandes. Maintenant, lisons, Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22. Suivez très bien ce passage. Ils paraissent comme contradictoires. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Est-ce que vous avez suivi? Le passage dit, toi-même tu vas manger ta dîme. Non, n'ayez pas peur. Alléluia. Le passage qui dit, la dîme est pour le Lévite. Il y en a un autre qui dit que, bon, on explique, on dit c'est la dîme de 3 ans. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, les premiers de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras. Dernièrement, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras devant tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Ah, si quelqu'un a compris quelque chose, acclame le Seigneur. Amen. En fait, ici, le Seigneur parle en fait de deux sortes de dîmes. La première dîme, d'abord il dit que la dîme appartient à Dieu. Et quand il explique la loi, il définit deux sortes. Il dit, il y a une dîme là. Il dit, tu as amené toute la dîme au Lévite. Après, il dit, il y a une autre dîme encore, tout le monde, tu dois manger. Donc, ça embrouille les gens. Mais en fait, moi, ce que je crois, la révélation que j'ai, c'est que, il y a une première partie de la dîme, qui est un dixième, qui est une dîme, qu'on amène directement à la maison de Dieu. Et il y a une autre partie qui n'est pas pour nous, qui est pour Dieu. Parce que regardez ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Il dit, cette dîme-là est consacrée à l'Éternel. Il dit, tu le feras pour apprendre à craindre Dieu. Ce n'est pas de l'argent, c'est quelque chose que on va peut-être utiliser demain. Mais on le prend avec la crainte de Dieu. C'est ce que j'appelle le pépère. Tu le prends, tu le gardes. De la même manière que tu apportes ta dîme à l'église. Tu prends ça, tu peux ouvrir un compte. Et puis tu déposes jusqu'à 3 ans au moins. Amen. Donc, tu as eu 10 000 francs. Il y a 1 000 francs dîme pour le Lévite, la maison de Dieu. Un autre 1 000 francs que tu ne vas pas toucher. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Mais cet argent-là, voilà ce qu'il dit de cet argent. Voilà ce qu'il dit de cette dîme. Cette dîme-là sera pour toi, famille et toi, une bénédiction. Et sera pour tous les autres une bénédiction. Dis avec moi, le fleuve. Ah! Il dit, cette dîme-là, là, de 3 ans, elle va bénir toute ta famille. Cette dîme-là bénira même le Lévite, le sacrificateur. Elle sera une source de bénédiction. Il dit, les gens viendront chez toi. Ta vie va devenir une bénédiction. En fait, ce que j'explique, c'est le principe de pratiquement tous les fleuves. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, tu ne vas pas manger la dîme où tu veux et puis comme tu veux. Tu vas la manger au lieu où aura choisi l'Éternel. Ça veut dire quoi? Après avoir épargné, tu mets l'argent pendant 3 ans. À la 3e année, tu dois invoquer l'Éternel. Savoir, Seigneur, voilà ton argent. Qu'est-ce que je dois en faire pour la gloire de ton nom? C'est là que commence, si tu veux, qu'est-ce que je dois en faire? Et Dieu va te donner un lieu, un domaine dans lequel tu dois investir pour que ta vie et la vie des autres soient bénies. Tu la gardes. À la 3e année, tu te mets devant l'Éternel. Il ne faut pas prendre pour manger parce que tu as mangé, c'est un péché. Si tu te lèves, tu dis, bon, ça là même c'est pour moi-même, je vais prendre pour aller donner à ma famille, tu as péché. Si tu le prends et tu gères avec ta propre sagesse, c'est un péché. Tu as pris l'argent de Dieu. C'est de l'argent que Dieu prend pour réinvestir dans ta vie selon la vision qu'il va te donner. Dieu te donne d'épargner pour la vision qu'il a mise en toi. Dieu veut te donner d'épargner. Dieu te demande de lui consacrer de l'argent parce que lui, il a un appel pour ta vie. Et cet argent-là, il le débloque. C'est un fonds bloqué qui ne débloque que chaque 3 ans sur révélation qu'il t'aura donnée. Dieu va te parler. Chaque 3 ans, Dieu va te parler. Et Dieu va dire où tu dois investir. Les autres 8/10 là, fais ce que tu veux. Fais offrande, bénis les gens. Mais la dîme de Dieu, qui est gardée quelque part dans un compte, à la fin de la 3e année, il dit, tu ne mangeras pas où tu veux. Parce que ce n'est pas pour toi. Les 8/10, tu manges où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Personne ne va te parler. Mais l'autre partie de la dîme ne t'appartient pas. Tu ne peux pas la gérer à ta guise. Tu dois rester devant Dieu pour dire, Père, voilà ce que tu m'as donné de mettre à part pour toi pendant 3 années. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, l'orphelin, la veuve. En fait, maintenant, ta vie, il dit, ta famille sera bénie avec cette dîme. L'orphelin sera béni, la veuve sera bénie. Les gens seront bénis parce que tu es épargné. Dieu va bénir cela. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. On a compris, non? Donc, dorénavant, mon frère, si tu es arrivé par accident, on t'a donné 10 000 francs. Ne dis jamais, tu as 10 000 francs. Enlève la part de Dieu, la dîme, 1 000 francs. Tu mets dans l'enveloppe qu'on donne, tu déposes à l'église. Tu enlèves une autre dîme. Quelle que soit la pression familiale, ne touche pas. Quelles que soient les gens qui sont dans les difficultés, ne mange pas. Tu es en train de manger ton pépin. Tu es en train de manger le noyau. Fais attention. Car cet argent risque de ne pas être renouvelé. Mais à cause de la fidélité de Dieu, Dieu va faire pour ne pour pas que tu meurs de faim. Il va intervenir, il va faire un autre miracle. Mais Dieu veut que tu apprennes comment il gère les choses. Tu enlèves l'autre partie. Amen. Et puis tu enlèves cette partie. Et tu gardes les 8/10. Et avec ça, tu gères tout ce que tu peux gérer. À la fin de la 3e année, ton Dieu va te parler. Alléluia. Ton Dieu va, peut-être va te dire, laisse encore. On va monter. Si tu as compris, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui. Amen. Amen. Je pense que la parole de Dieu est assez claire, non? Hein? Voilà, la parole de Dieu est assez claire. Hein? Parce que les gens, on était trop souvent embrouillés sur ces deux dîmes. On ne comprend pas. Dieu dit, il y a une dîme, tu vas manger. Il y a une dîme, tu es pour le Lévite. On fait quoi? En fait, c'était deux dîmes différentes. Il y a une que tu devais garder jusqu'à 3 ans. Il y a une autre que chaque fois, tu amènes à la maison de l'Éternel.
Et la deuxième dîme était aussi consacrée à Dieu. Mais elle va permettre d'entrer dans ta destinée. Elle va permettre de financer et de pouvoir à ton fleuve, à toi. Et tes fleuves vont devenir une source de faveur et de bénédiction pour tous les autres. Dieu va faire un miracle dans ta vie. Tu es né pour réussir, mon frère. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur?
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.